BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Stéphane Pedretz.
Bonjour à tous, ravi de vous accueillir cet après-midi pour votre rendez-vous d'infos sur les marchés financiers et les placements. Une baisse des taux est-elle encore possible aux États-Unis? L'indice de la Fed de Philadelphie indique en effet une très nette accélération de l'activité au mois d'avril. Hier soir déjà, le livre beige de la Réserve fédérale évoquait une légère expansion de l'activité au mois de mars. On est très loin du ralentissement économique qui était attendu il y a encore quelques mois. John Plassard va nous apporter son éclairage dans un instant. Une baisse des taux est-elle encore possible? On en débattra avec nos invités du club tout à l'heure à partir de 17h. L'introduction en bourse réussie de Planisware, le spécialiste français des logiciels dédiés à la gestion de projets, affiche une hausse de 25% pour sa première journée de cotation. Ce succès peut-il relancer le marché des IPO à la Bourse de Paris? On en débattra dans la famille BFM Bourse tout à l'heure à partir de 16h30. Et puis on parlera de l'investissement responsable. Est-ce qu'il fait toujours recette? Il est difficile évidemment d'égaler la performance des indices boursiers depuis quelques mois. Sans les énergies fossiles et sans le secteur de la défense, l'ESG doit-il s'assouplir ou au contraire rester extrêmement rigide? On posera la question à Vincent Auriac, c'est le président d'Axilia. Il sera notre invité tout à l'heure à 16h45. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Et c'est l'heure de jeter un œil sur les marchés américains avec Aude Kersulec en direct du siège d'Euronext et John Plassard, notre spécialiste en investissement chez Mirabeau. Aude, on commence avec vous. Bonjour. Quelle est l'orientation ce début de séance un petit peu particulière, on verra pourquoi, sur les marchés américains?
Oui, ouverture à la hausse pour le moment, on y croit. Plus 0,19% pour le S&P 500, 5030 points. Plus 0,47% même pour le Dow Jones, 37 931 points. Et plus 0,02% le Nasdaq qui est quasiment stable, 15 686 points. C'est vrai qu'on y croit de nouveau à Wall Street après 4 séances de baisse. Et pourtant, on y avait quand même cru ces derniers jours aussi. Et ça s'était mal fini, même si hier la baisse a été moins importante que au début de semaine. On a seulement baissé de 0,2%, mais on se rend compte quand même que la tech continue d'être largement pénalisée. On regardera dans le détail, on en reparlera avec John, mais TSMC perd 5% après déjà ASML hier, le secteur des puces qui semble être laissé de côté de la part des investisseurs. Et puis c'est vrai que si on regarde les taux, il y a une légère décrue, mais on reste tout de même très élevé sur ces rendements obligataires, 4,6% pour le 10 ans américain. Voilà pourquoi le Nasdaq avance très peu ce matin à l'ouverture.
Merci beaucoup Aude. On regardera évidemment les marchés européens et la Bourse de Paris en particulier tout à l'heure à partir de 16h. Vous restez avec nous. John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau, est également en duplex. John, le chiffre du jour, il est venu de Philadelphie. C'est ce qu'on appelle le Philly Fed, c'est-à-dire l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, très largement au-dessus des attentes. 15,5 au mois d'avril, il était attendu seulement à 1,5. Alors d'accord, ça ne concerne que la région de Philadelphie, mais a priori, c'est un signal précurseur d'une accélération de l'activité économique.
Ouais, vous avez tout à fait raison Stéphane, et c'est très important parce que le Philly Fed est suivi de très près par les économistes parce qu'il est considéré comme étant une région qui représente globalement les États-Unis. On voit, vous l'avez dit, qu'on est à un niveau de 15,5, c'est le niveau le plus élevé depuis 2 ans. Et si on regarde, si on gratte un peu sur les chiffres, on voit qu'on a l'activité manufacturière qui a continué de se développer, vous avez l'activité générale aussi, les nouvelles commandes, donc c'est sur le futur, et les expéditions qui sont tous en hausse. Et indication très importante aussi, on voit que l'indice des prix continue à suggérer une augmentation générale des prix. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est ce qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis sur le Philly Fed. On a une croissance qui tient et qui s'accélère, et de l'autre côté, une inflation aussi qui progresse. Donc c'est une bonne chose pour la croissance, mais de l'autre côté, un peu plus d'interrogations sur l'inflation et surtout ce que va faire la Fed.
Oui, justement, sur l'inflation, John, on a la composante prix payée qui est passée de 3,7 à 23. Ça, j'imagine, c'est une confirmation du retour de l'inflation aux États-Unis.
Exactement. Alors, ce qu'on savait, Stéphane, c'est qu'en début d'année, on avait des bases de comparaison qui étaient assez faibles, je dirais. C'est pour ça qu'on a une progression 2 mois de suite de l'inflation du CPI américain. Mais sur les données, et notamment les données que vous venez de citer, on a l'impression que, effectivement, l'inflation pourrait repartir. Alors, évidemment, pas retrouver les hauts niveaux de début 2023, mais revenir sur des niveaux qui sont considérés comme étant dangereux parce que ces niveaux empêcheraient la Réserve fédérale américaine de couper ses taux rapidement.
Justement, on en débattra tout à l'heure à partir de 17h avant de laisser la parole à Aude. Je vous pose la question à vous, John. Est-ce que dans ces conditions, une baisse des taux aux États-Unis est-elle encore envisageable ?
Alors écoutez, si on regarde, Stéphane, le consensus, on est à 40 points de base de baisse hein, contre 160 en début d'année. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un peu moins de 2 baisses de taux. Il est évident que d'un côté, si on regarde l'inflation qui redémarre, eh bien très logiquement, la Réserve fédérale américaine ne devrait pas baisser ses taux en juin et attendre septembre. Mais le problème qu'on a ici, c'est qu'on est en période d'élection présidentielle aux États-Unis, comme on en parle tous les jours, et il serait un peu malvenu de baisser les taux le mois précédent les élections aux États-Unis. Donc c'est un coup extrêmement difficile à voir, et évidemment c'est toutes les prochaines données économiques qui vont nous guider sur le nombre de baisses qu'on va avoir, mais évidemment à ce niveau-là, on peut pas parier sur plus de 2 baisses de taux en 2024.
Et je le disais, c'est vraiment le sujet du jour, on y reviendra avec nos différents invités et on en parlera dans le club tout à l'heure à partir de 17h. Aude Kersulek, toujours en direct d'Euronext, il y a un mot, Aude, qui est en train de faire le buzz, c'est le mot take-off. Pourquoi ?
Ouais, vous savez, on aime beaucoup les métaphores en bourse. Il y a celle des animaux avec les boules et les bears. Et il y a celle en lien avec l'avion, prendre l'avion. Alors, on connaît le hard landing, le soft landing, le no landing, quand on parle de la trajectoire de croissance américaine. Là, vous mettez donc ce nouveau mot sur le tapis. John, c'est le take-off, le décollage. Bah, ça sonne plutôt positif, dit comme ça.
Oui, ça sonne positif, mais c'est surtout le décollage ou le redécollage des taux. Personne n'a parlé d'une augmentation des taux, bien évidemment, parce que lorsqu'on parle de no landing, normalement les taux devraient rester élevés, mais qu'est-ce qui s'est passé ? En début de semaine, on a eu Bank of America qui nous a dit que potentiellement l'inflation aux États-Unis pourrait être à 4,8% en novembre prochain pendant les élections. Et Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan, a dit au début du mois d'avril que potentiellement les taux d'intérêt américains pourraient remonter jusqu'à 8% cette année. Donc on imagine ici, personne ne parle de hausse des taux, mais que potentiellement, face à l'accélération de l'inflation, on va bientôt parier sur des hausses de taux plus qu'une stabilisation des marchés. Et c'est ce qui s'appelle le take-off. Rappelez-vous bien de ce nom, le take-off. On va en parler tout au long de ces prochains mois.
15h39, on passe au journal de l'élection américaine. Nous sommes à 200 jours de cette élection aux États-Unis. Et on va parler du procès de Donald Trump. Il est bien plus important qu'il n'y paraît, non pas parce qu'il risque une peine de prison, mais aussi, John, à cause de l'opinion publique. Quelles sont les dernières informations concernant ce procès, et notamment en ce qui concerne la nomination des jurés à ce procès ?
C'est une question très très importante parce que on sait que les Américains sont très sensibles, non pas à l'emprisonnement de Trump, ce qui ne sera pas le cas, mais au fait qu'il soit condamné ou non. Et on a eu des sondages qui sont sortis, on en a parlé d'ailleurs ensemble, qui mettaient en avant le fait que si Donald Trump devait être condamné dans ce procès pénal, eh bien les gens voteraient moins pour lui. Donc on a eu la nomination de ces jurés. Dans ces jurés, on a, tenez-vous bien, une infirmière, un enseignant, 2 avocats, un vendeur et un grand-père qui figurent parmi les premiers jurés. Et ce procès, tenez-vous bien, il pourrait durer 2 mois et ces jurés vont être convoqués pour 4 jours minimum par semaine pendant 2 mois pour venir au procès de Donald Trump. Je vous rappelle quand même que Donald Trump a tenté à plusieurs reprises de déplacer l'affaire hors de Manhattan parce qu'il considère que Manhattan est contre Trump, c'est lui qui le dit, pas moi, et qu'on est dans une situation où les jurés qui ont été pour l'instant nommés, comme je disais avant, ne sont pas du goût de Donald Trump. Donc on va suivre cette affaire qui vient de commencer, il faut le rappeler, lundi. C'est la première fois qu'un président américain est au pénale aux États-Unis.
On a une indication sur l'orientation politique de ces jurés ou c'est une info qui n'a pas été communiquée ?
Non, c'est une info qui n'a pas été communiquée et surtout il a été demandé aux habitants et aux jurés de Manhattan qui avaient reçu la convocation d'être justes et impartiaux. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? On imagine bien qu'ils devraient être justes et impartiaux, mais on leur a pas demandé s'ils étaient plutôt de droite ou de gauche, c'est-à-dire démocrates ou républicains. Donc c'est un peu compliqué de savoir, mais il est évident que tous ces jurés ont des tendances politiques marquées aux États-Unis, surtout à Manhattan. Je vous rappelle qu'il y a quand même plus de démocrates que républicains.
On passe à l'actualité entreprise avec vous, Aude. Encore de bonnes nouvelles dans le secteur aérien. On va continuer de filer la métaphore.
Oui, on parlait de décollage, c'est vrai, à l'instant. Vous nous parlez de voyage, John. Alaska Airlines prévoit un essor de la demande de voyage. Alors, le titre prend en ce moment 4,7%. Mais pourquoi l'Alaska, John ? Est-ce que c'est à cause du réchauffement climatique ? Bon, c'est dit comme une boutade, mais après tout ?
Écoutez, non, pas tellement, Aude. Il faut rappeler qu'Alaska Airlines est quand même l'avion, le Boeing, la compagnie qui a perdu une cabine en plein vol. Ce qu'il faut noter, c'est que pour les avions d'Alaska Airlines, ils ont été immobilisés pendant 2 semaines. Ça leur a quand même coûté 162 millions de dollars. Mais les bénéfices aujourd'hui sont supérieurs aux attentes. Et comme on le disait hier, vous avez une très forte augmentation de transport qui a permis d'anticiper une forte saison estivale. Et je vous rappelle quand même hier, Aude, que United Airlines a clôturé avec le même message à plus 17% hier soir aux États-Unis.
Toujours au chapitre des résultats, Blackstone, qui est la plus grande société de capital investissement, a publié un bénéfice trimestriel en progression de 1%.
Oui, tout à fait. Vous allez me dire que c'est pas grand-chose, mais il faut rappeler une chose, c'est que on a eu une croissance des bénéfices qui sont liés aux commissions qui a quand même compensé partiellement. On a eu une baisse des revenus puisqu'il y a eu pas mal de cessations d'actifs. Donc, c'est des très bons résultats pour Blackstone qui sont salués actuellement sur le marché.
Aude, vous le disiez en démarrant cette demi-heure, on a eu des résultats dans les semi-conducteurs, le numéro 1 mondial, TSMC.
Oui, TSMC qui a battu les attentes en termes de revenus et de profits. Et pourtant, son action se négocie en large baisse, hein, moins 6%. On se souvient, John, d'ASML hier, qui avait fait à peu près de mêmes annonces, hein, c'est-à-dire très bonne sur ce qui s'était passé sur les premiers mois. Mais là, on perd 10% sur ASML. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le secteur des puces ?
Ben, vous l'avez dit, Aude, on a un résultat, un bénéfice de plus de 9%. C'est largement au-dessus des attentes du consensus, mais c'est le message. C'est le message qui est beaucoup plus prudent, puisque TSMC nous dit que l'industrie des semi-conducteurs se redresse plus doucement que prévu, alors qu'on a une très forte demande pour l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ? Ça veut dire que la demande pour les semi-conducteurs, et surtout les semi-conducteurs embarqués dans les véhicules, eh bien, est de plus en plus faible. Et ceci ne compense pas la forte hausse sur l'intelligence, sur la demande sur l'intelligence artificielle. Donc le message est assez prudent sur le secteur des semi-conducteurs au global et ça explique aussi ce qu'on a eu hier sur ASML, comme vous l'avez dit, Aude.
Puis on reste dans les semi-conducteurs, John, avec Micron Technologies qui va recevoir une grosse subvention du gouvernement américain.
6 milliards de subventions du gouvernement américain pour Micron afin de financer un projet d'usine de semi-conducteurs aux États-Unis. Et la nouvelle est très importante. Pourquoi ? Parce qu'en début de semaine, c'était Samsung. On en avait parlé, Stéphane, ensemble. Samsung avait reçu une subvention du gouvernement américain de plus de 14 milliards de dollars. Et avant ça, c'était Intel. Donc on voit qu'il y a une véritable course aux semi-conducteurs et surtout pour produire aux États-Unis et non plus en Asie. On sait que ça prendra du temps, mais les prémices de semi-conducteurs américains sont bien là.
Merci beaucoup, John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Merci également à Aude Kersulek depuis Euronext. Aude, on se retrouve tout à l'heure à 16h pour la séance en cours à la Bourse de Paris. 15h45, la Bourse Cash, aujourd'hui avec Alexandre Aizé, stratégiste du groupe Richelieu. Bonjour.
Bonjour.
Votre punchline, la phrase que vous êtes venu défendre en plateau aujourd'hui, le problème de la Fed, c'est que l'Américain est trop riche.
Tout à fait. Bah écoutez, dans le dernier rapport trimestriel de la Fed sur les bilans des ménages et des entreprises, le patrimoine net des ménages est à peu près de 156 trilliards de dollars. Il a augmenté au quatrième trimestre de 3,5%. Et ce qui veut dire qu'en fait, depuis le Covid, l'Américain est de plus en plus riche. Alors évidemment, il y a l'emploi, hein, plus que dans le patrimoine, on ne regarde pas les salaires. Mais ça complique beaucoup le travail de la Fed. Pourquoi ? Rappelons-nous, il y a 2 ans maintenant, Jérôme Powell, qui disait qu'il allait faire souffrir les ménages et les entreprises par ses hausses de taux et sa politique restrictive sur la distribution de crédit, il n'en est rien. Et son problème, c'est que finalement, la hausse des taux n'a pas eu l'impact nécessaire pour faire baisser suffisamment l'inflation et suffisamment l'activité. Pourquoi ? Parce que pendant le Covid, les ménages américains, et d'une certaine manière aussi évidemment les entreprises et les grandes entreprises, mais se sont largement enrichis. On a ajouté à peu près en 4 ans dans le patrimoine américain 37 trilliards, donc 37 000 milliards de dollars de richesse.
Avec notamment de l'argent distribué par la Fed, hein, l'hélicoptère monnaie aux États-Unis.
Exactement, et par l'État américain, hein, par tous les plans de relance. Et d'une certaine manière, le ménage américain en a profité pour se désendetter. Hein, la dette moyenne du consommateur américain a baissé. Hein, et puis, c'est enrichi en achetant de l'immobilier et en achetant des actions. Et force à penser qu'aujourd'hui, le marché immobilier est quasiment, en tout cas résidentiel, est quasiment au plus haut et le marché des actions est quasiment au plus haut. C'est-à-dire que le ménage américain n'a jamais été aussi riche. Donc, il continue à consommer un peu moins. Mais finalement, les hausses de taux et tout ce que peut faire la Fed, eh bien, ça n'arrive pas à avoir un impact suffisant. Et pire encore, c'est-à-dire que les ménages riches, on a à peu près 133 000 ménages qui se sont enrichis de 150 millions d'euros aux États-Unis en 4 ans. Donc, c'est vrai qu'il y a une disparité assez forte, mais les ménages en moyenne, eh ben, placent leurs économies sur des placements qui sont de plus en plus rentables, puisque les taux sont de plus en plus hauts. Donc, il y a un effet d'enrichissement, une boule de neige qui fait que la Fed n'arrive pas à arrêter ce mécanisme.
Il y a un constat qui complique évidemment la stratégie de la Fed. On n'est plus du tout dans un scénario de soft landing, ni même de no landing, puisque le livre beige l'a dit hier soir, il y a une légère expansion de l'activité au mois de mars. Et là, cet après-midi, l'indice de la Fed de Philadelphie montre, dans la région de Philadelphie, qu'on a vraiment des signes d'accélération de l'économie. Je vais vous poser la question très directement, mais est-ce que vous pensez que dans ces conditions, une baisse des taux est encore possible aux États-Unis ?
De manière très pragmatique, normalement, la Fed ne devrait pas baisser ses taux. Nous, au groupe Richelieu, il y a encore 2-3 mois, on disait entre une et deux baisses de taux, avec une deuxième baisse en décembre. C'est vrai qu'on n'aura peut-être qu'une baisse de taux, une baisse de taux cette année.
Plus mais que... pourquoi une baisse de taux si elle n'est pas nécessaire ?
Alors, pourquoi ? Parce qu'il faut déjà arrêter pour se donner du temps. C'est-à-dire une baisse de taux pour dire on baisse les taux une fois, on réduit un peu le quantitative tightening et on attend. Et donc, c'est expliquer au marché que la dynamique, elle est baissière, mais elle va être sur une tendance extrêmement longue. Et puis, deuxième chose, il y a aussi des risques systémiques. On a vu dans les résultats de Blackstone, le private equity qui pose aussi problème. On a de plus en plus de mal, effectivement, dans ce secteur-là. L'immobilier commercial, cette fois-ci, aux États-Unis, est fortement impacté. On a vu qu'à chaque fois qu'il y avait des stress sur les taux d'intérêt, on a eu plusieurs banques régionales qui ont fait faillite et la Fed a dû apporter son soutien pour éviter un élément en cascade et des risques systémiques. Donc, des taux trop hauts, est trop haut et trop longtemps, risque d'impacter des acteurs faibles et notamment une partie du secteur bancaire via l'immobilier commercial. Donc,
Vous dites que les Américains sont trop riches et ça pose problème à la Fed. On a un chiffre sur le logement qui est inquiétant. La possibilité pour les Américains de s'offrir un logement est au plus bas depuis 1980. Les logements sont chers. On a eu cette semaine le taux moyen des crédits immobiliers à 30 ans aux États-Unis. Ils repartent à la hausse, on est à 7,13%.
Alors malheureusement, il y a un déséquilibre qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire que les logements sont de plus en plus chers, les loyers sont de plus en plus importants, et donc c'est ce qu'on appelle aux États-Unis l'indice d'affordability, c'est-à-dire cette capacité des ménages à pouvoir acheter. Le dernier point où il était le plus bas, c'était 2008-2009, où on avait eu une crise financière. Là, on n'est pas du tout dans la même perspective, parce que l'endettement est bien moindre. En 2009, en fait, cet indice se faisait du fait d'un endettement supérieur. Là, ce que ça veut dire, c'est que ça crée d'énormes inégalités et des disparités dans la population américaine entre les ménages les plus riches et évidemment ceux qui n'ont pas ou peu de patrimoine. Et donc, c'est surtout ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'en global, le ménage américain ne peut pas acheter de logement, mais il est de plus en plus concentré avec peu de dettes et peu financiarisé.
Vous le disiez tout à l'heure, la réserve fédérale américaine devrait baisser ses taux pour marquer le coup, pour envoyer un signal. Est-ce qu'il n'y a pas un risque avec le retour de l'inflation de devoir faire marche arrière? Ce sera vraiment le pire des scénarios, de baisser légèrement ses taux pour devoir les remonter par la suite.
Ça, c'est la question. C'est un peu une quadrature qui est très compliquée pour la Fed, d'ailleurs qui est moins compliquée pour la BCE, parce que là, on est en désinflation, puisqu'on avait un choc d'offres, alors que la Fed, en tout cas les États-Unis, avait un choc de demande, donc c'était lié à l'activité. Donc effectivement, c'est éviter ce retour en arrière. C'est pour ça que baisser une fois, et c'est surtout pour attendre. Il y a 5-6 mois, le marché s'attendait à 6, 7, voire certains 8 baisses de taux.
Ouais.
Là, on est maintenant à 2 baisses de...
Deux baisses maximum,
c'est assez récent. Et on sait que le marché de balancier, puisque finalement 7 baisses étaient complètement idiot, hein, on sait que maintenant le marché, et ça c'est un peu la crainte du marché, peut même, et ça c'est l'impensable pour l'instant, mais pricer des hausses de taux. Donc ça sera une possibilité si l'activité est très forte. Et là, ça mettrait les marchés dans leur ensemble en péril, les marchés de taux, mais évidemment les actions, et surtout au niveau macroéconomique, ça mettrait les autres banques centrales et le monde entier qui attend la baisse des taux de la Fed, hein, qui attend des conditions de crédit un peu plus assouplies aux États-Unis. Et surtout, on l'a dit, la BCE n'a jamais agi avant la Fed. Là, ça sera le cas, ça sera une première, mais ça risque d'avoir des impacts sur l'euro-dollar et d'une certaine manière fragiliser la BCE, mais aussi le Japon qui commence sa politique moins accommodante et qui veut avoir un impact sur le yen, mais ça sera effectivement, ça n'a aucun impact. Donc ça met en péril à peu près toutes les stratégies des autres banques centrales. Et le véritable sujet, il est là.
Merci beaucoup, Alexandre Aizé, stratégiste du groupe Richelieu. On reviendra sur ce délicat sujet des taux américains tout à l'heure avec Samy Char vers 16h15 et on en débattra. Est-ce qu'une baisse de taux est encore possible aux États-Unis avec nos invités du club? Ce sera à partir de 17h, 15h53, Culture Bourse.
BFM Bourse, Culture Bourse.
Vous connaissez le principe de ce rendez-vous, c'est avec Julie Cohen. Pour savoir où aller en bourse, il faut d'abord comprendre là où on en est. Bonjour Julie.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Parce que oui, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire. Vous avez des questions pour structurer vos portefeuilles d'investissement. Et ça tombe très bien parce que nous, on a des experts pour vous aider à y voir plus clair. Et vous le savez désormais, il y a deux options qui s'offrent à vous. Vous nous écrivez à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr ou bien au QR code qui s'affiche si vous nous regardez à la télévision.
Et la question du jour concerne un mastodonte français de l'informatique qui essaye de réduire sa dette.
Et ce mastodonte, c'est évidemment Atos. Atos qui est à la recherche de 1,2 milliard d'euros et dont le titre a chuté de 74% depuis début janvier. Et c'est Khalil qui s'interroge à propos de ce titre. Il veut savoir ce qu'il doit faire compte tenu du contexte. On va tout savoir grâce à l'éclairage de Gwenaël Le Sar pour Swiss Life Banque Privée. Bonjour Gwenaël.
Bonjour Julie.
Merci d'être avec nous. Gwenaël, quel regard vous portez sur ce titre?
Bon, Atos, il faut comprendre qu'il y a plusieurs éléments. Hein. Ils ont présenté leur plan de refinancement la semaine dernière. Donc c'est sûr qu'ils cherchent 1,2 milliard pour assurer la survie d'Atos sur les 2 ou 3 prochaines années. Mais ils cherchent aussi surtout à réduire leur dette qui est autour de 4,9 milliards d'euros, à la réduire de 2,4 d'ici fin 2026. Une des solutions, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à vendre soit l'une des entités, soit d'autres cessions américaines, par exemple. Ils n'ont pas réussi, donc ils ont besoin de cet argent. Donc la solution, c'est de transformer la dette souvent en fonds propres. Donc ce qui implique une recapitalisation à peu près de 2,4 milliards d'euros. Et donc c'est souvent au détriment des petits actionnaires. Donc ça ferait une dilution très très forte, sachant que la capitalisation d'Atos aujourd'hui est de 240 millions. Donc vous faites une augmentation de capital, une recapitalisation, si vous voulez, 10 fois plus importante. Voilà. Alors après, Atos va continuer à exister. Ça, il y a aucun problème. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées. Les créanciers, donc principalement les banques françaises, vont s'atteler aussi à la tâche pour sauver cette société. Malheureusement, sans doute au détriment, je le répète, des petits porteurs.
Mais alors, donc, du coup, c'est un dossier très complexe. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement avec ce titre ?
On aura plus d'éclaircissements à partir du 24 avril. Il y aura des 26 avril, il y aura des décisions qui seront prises. Je pense malheureusement que il faut pas forcément lutter contre le marché. Il faut sans doute vendre encore aujourd'hui Atos. L'ensemble des analystes prévoit une valorisation autour de entre 15 et 20 centimes. Ça vaut autour de 1,80 aujourd'hui. Voilà. La société sera sauvée, mais pour le petit actionnaire minoritaire, ce sera vraiment très sanglant. Il y a peut-être encore un petit peu à gagner aujourd'hui si c'est pour trouver 10 fois une valorisation 10 fois plus basse la semaine prochaine.
Ça, c'est une réponse concrète. Merci beaucoup, Gwenaël. Gwenaël Lessard pour Swiss Life Banque Privée. Vous restez avec nous. On vous retrouve dans quelques minutes. Et si vous êtes comme Khalil, si vous avez des questions, vous continuez à nous écrire. Vous pouvez nous écrire aussi sur les réseaux sociaux. Et bien entendu, vous pouvez retrouver ce passage en replay sur notre site internet.
Et dans ce rendez-vous, vous le savez, on répond à vos questions, mais on fait aussi un petit peu de pédagogie financière à travers notamment notre portefeuille trading BFM Bourse.
Cet éclairage, il est apporté avec l'aide d'Alexandre Tixier. C'est lui, l'analyste de ce portefeuille trading. Bonjour Alexandre.
Bonjour Julie.
Merci d'être avec nous. Alors, on le rappelle, hein, si vous voulez vous abonner à ce portefeuille, il vous suffit de scanner ou de flasher ce QR code. Alors Alexandre, hein, le CAC hésite, un coup au-dessus de 8000, un coup en dessous de 8000, mais on est très proche. On a du mal quand même à rester sur ce seuil. C'est quand même très fébrile. Quel regard vous portez sur ces derniers ajustements et quel constat technique vous dressez au sein du portefeuille ?
Fébrile, effectivement, sur les, là, on est sur les 8000 tout ronds, là, je regarde en direct. Vraiment, on est sur les 8000 tout ronds. Et on est vraiment dans un marché, d'une grande prudence. Pas de sentiment de peur à ce stade, hein. Vraiment, on a un CAC qu'il faut dire qui est bien aidé par une de ses composantes, la principale, qui est LVMH. On a, j'y reviens, deux gaps baissiers très récents. 5 et 16 avril. Et tous les deux ont été comblés très rapidement. Hein. Dans la foulée de leur formation, cet effet s'était comblé. Donc, pour moi, ça accrédite l'entrée dans une phase de respiration, mais sans heurts. On a une première cible baissière qui serait le comblement du gap du 22 février. Là, on est sur 7820 points. Et puis après, on a un support intermédiaire à 7700. Et là, il sera temps de jauger la capacité de remobilisation du marché.
Compte tenu de cette prudence observée sur le CAC, quelle stratégie est-ce que vous recommandez d'adopter ?
Alors, c'est assez simple de notre côté. Hein. C'est une stratégie basique de couverture, hein, qui nous permet de passer assez sereinement cette période de transition où on pourra effectivement avoir à terme, d'ici quelques jours, pourquoi pas une ou deux séances de baisse prononcée. Alors, à titre d'illustration, là on vient de couper une position de vente à découvert sur Kering avec une plus-value confortable de près de 15%. Voilà comment on procède actuellement.
Merci beaucoup Alexandre Tixier pour ce portefeuille, ce point sur le portefeuille. On vous retrouve dès mardi pour un nouveau décryptage.
Merci beaucoup Julie Cohen, Culture Bourse tous les jours.